Oui, donc je vais continuer à donner quelques informations complémentaires en ce qui concerne ce qu'on a parlé. On a parlé du personnel auxiliaire à Notre-Dame. On a beaucoup parlé des chanoines, mais pour donner un ordre d'idée, ces chanoines qui sont donc théoriquement 50 et dont Véronique a rappelé tout à l'heure qu'en fonction des événements, en fonction de la situation à Paris, on pouvait avoir un nombre extrêmement réduit. Elle a rappelé qu'au moment de l'occupation anglaise de Paris, on avait moins d'une dizaine de chanoines qui étaient présents dans le cloître et dans les différents chapitres ordinaires à Notre-Dame. Et en fait, pour donner une idée, les chanoines, on peut dire, représentent un quart du personnel statutaire gère l'administration du service divin dans la cathédrale. On peut évaluer certainement entre 150 et 200 personnes quand on fait le total de tous ceux qui s'en occupent, des clercs et des laïcs, hein, vous allez le voir, entre plus d'une centaine de chapelains à la fin du XVe siècle, les sergents qui doivent s'occuper de la gestion de la propreté de la cathédrale et de la préparation de la cathédrale, entre les marguilliers laïcs, les marguilliers clercs, tout ceci, on peut dire en gros, les chanoines représentent un quart de ce personnel. Si on a fait ce plan du cœur aussi, c'est parce que en mettant toute l'articulation des personnels autour sur les deux documents différents qu'on vous a présentés, hein, le document des chanoines bénéficiaires et enfants que vous avez sous les yeux, et l'autre document que nous ne mettrons pas, que vous avez reçu par le lien, qui est sur les marguilliers, les chefsiers et les sergents. En fait, c'est aussi pour utiliser un document exceptionnel qui est peu connu et qui sert de support à cette reconstitution du chapitre à la fin du Moyen-Âge, qui est le plan réalisé par ce que l'on appelle l'agence Jules Ardouin-Mansart en 1680, avant la destruction du jubé. C'est-à-dire au moment de la réalisation des travaux importants dans le cœur de Notre-Dame consécutifs au vœu de Louis XIII, où on a fait 7 ans de travaux au début du XVIIIe siècle, on a relevé le plan du cœur une première fois en 1680, et le plan du cœur que vous avez sous les yeux, réalisé d'une manière professionnelle par des architectes, en fait correspond à l'état du cœur à la fin du Moyen-Âge, puisque le jubé est encore là, la clôture orientale du cœur est encore là, et donc c'est le document le plus sûr pour nous permettre de situer spatialement l'occupation des lieux et la gestion du service divin. D'ailleurs, si vous regardez bien, je le signale pour ceux que ça intéresse, sur la partie droite, à côté de l'inscription verticale clôture du cœur, vous avez l'échelle avec les toises et les pieds, vous avez un certain nombre de toises avec les 6 pieds par toise qui sont occupés, donc vous pouvez même reconstituer la dimension exacte, parce qu'on connaît la dimension exacte de la toise de Paris au XVIIIe siècle, qui était l'objet de grands débats à l'époque de Colbert. Donc, ce document est vraiment fondamental, c'est le meilleur plan que l'on puisse utiliser pour reconstituer le cœur. Alors, un quart de, je disais tout à l'heure, on a 50 chanoines, qui représente un quart du nombre de desservants pour le service divin. Et évidemment, il y a les nombres qui vous ont été mis à gauche en ce qui concerne ceux dont on n'a pas encore parlé, qui sont les machicots, les clercs des matines, les enfants de cœur et les chapelains, sont des nombres très variables. Ce sont des nombres ici en quelque sorte théoriques, mais même ces nombres théoriques sont variables. Pour donner une idée, il arrive déjà dans la première moitié du XIVe siècle que l'on ait 18 clercs des matines et machicots, et à d'autres moments, au cours du XVe siècle, on n'en aura qu'une douzaine au total. Les enfants de cœur, on en a théoriquement, disons du point de vue comptable, le budget des enfants de cœur au XVe siècle permet de payer l'entretien annuel de 10 enfants, y compris l'aîné des enfants, celui qui leur sert de chef, qu'on appelle le spé, et le maître des enfants. Mais en réalité, un certain nombre de laïcs négocient avec le chapitre d'avoir leur enfant présent au cœur en payant l'entretien des enfants, parce que, évidemment, ce qu'on appelle à l'époque moderne la maîtrise de Notre-Dame est un lieu de prestige. C'est en quelque sorte une école extraordinaire, une école de luxe, si on veut. Et c'est pour ça que les chanoines, quand certains laïcs veulent faire entrer leurs enfants dans la maîtrise, les chanoines prennent soin de savoir quelle est la véritable intention des enfants, parce que ces enfants sont souvent appelés à suivre toute une carrière. Ils vont devenir, quand ils vont grandir, clercs des matines, c'est-à-dire en quelque sorte chanteurs spécialistes, jeunes chanteurs à Notre-Dame. Ensuite, ils vont devenir chanoines de Saint-Denis-du-Pas, chanoines de Saint-Jean-le-Rond et chanoines de Saint-Aignan. Disons que un enfant, on a des cas d'enfants qui rentrent à 7 ans à la maîtrise et qui vont passer 50 ans, 60 ans à Notre-Dame en faisant un cursus complet. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi le chapitre prend tant de soins pour essayer de voir de près quelles sont les personnes qu'il va engager en son sein, surtout en ce qui concerne le service divin. Parce qu'évidemment, comme l'a rappelé Julie tout à l'heure et Véronique tout à l'heure, la grande question dans ce cœur de Notre-Dame, c'est d'assurer le service divin dans de bonnes conditions, dans la mesure où un grand nombre de chanoines ne sont pas en mesure de l'assurer eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on prend tant de soins, et les registres capitulaires nous donnent tant d'informations sur comment on va essayer de contraindre tous ceux qui ne sont pas des chanoines, qui sont engagés pour le service divin, à assurer, quelles que soient les conditions, leur présence au service divin. Et c'est pour ça qu'on a tant de problèmes, notamment avec les clercs de matine, avec les machicots et avec les chapelains, dont le petit pastoral, on a mis l'extrait sur la colonne de droite, le petit pastoral nous rappelle que les chapelains, même s'ils sont appelés à faire des messes dans les chapelles latérales, ils ont normalement pour obligation de servir la grand-messe et de servir les matines, qui sont les matines et les vêpres, qui sont vraiment les grands moments de la liturgie. Alors, sur le cœur encore, une autre chose importante, c'est que en ce qui concerne les chanoines et tous les desservants au cœur, c'est que la localisation, l'emplacement des personnes dans le cœur de Notre-Dame est une chose extrêmement importante. Il y a les stalles hautes, il y a les stalles basses, il y a les bancs, il y a les tabourets, et que la localisation dans le cœur, aussi bien d'un point de vue symbolique que pratique, joue un rôle fondamental pour le positionnement des personnes. Véronique a rappelé tout à l'heure que sur l'emplacement des dignitaires, on n'est pas toujours sûr de leur emplacement précis. Ce que l'on sait certainement, c'est que le chantre et le doyen sont chacun le premier à gauche, le premier à droite pour le doyen et le premier à gauche pour le chantre. Et bon, bien sûr, ce n'est pas hasard, la partie droite symboliquement est quand même la partie la plus noble, on peut dire, la partie supérieure. Et il y a beaucoup de questions de préséance qui se jouent à cet endroit-là. Et la division du cœur en partie droite et en partie gauche n'est pas simplement une division symbolique, c'est aussi une division pratique, puisque la comptabilité des distributions manuelles d'argent pour la présence au cœur est indiquée dans les quelques épaves de comptabilité que nous possédons pour le XIVe siècle, est indiquée selon la partie droite des distributions du cœur et la partie gauche des distributions au cœur. Donc, comme toujours, au Moyen-Âge, vous avez une association entre le pratique et le symbolique pour la réalisation des documents. D'une façon encore plus générale, si on touche au problème du personnel clérical et du personnel laïque, on arrive là à une autre dimension qui touche aussi la question du cloître, disons par extension de la question du cœur. Sur l'autre document qui concerne les marguilliers et les chefsiers et les sergents, vous avez là un certain nombre de personnels qui concourent à l'entretien, à la préparation du cœur pour le service divin, qui sont du personnel laïque, hein, les marguilliers, les sergents, 12 sergents, 4 marguilliers, ce sont des laïcs dont certains sont installés dans le cloître de Notre-Dame avec femmes et enfants. Et par là, on voit aussi que même si le cœur est un espace qui est strictement réservé aux membres de la communauté, et même si le cloître, théoriquement, on pense toujours aux chanoines étant dans le cloître comme un personnel cléricale, en réalité, il y a un très nombreux personnel laïque qui vient non seulement travailler tous les jours dans le cloître, mais qui y habite, et d'où les problèmes concurrents, parce que non seulement ce personnel y habite, mais parfois il vient y travailler, comme c'est le cas des marguilliers clercs et des sergents. C'est la raison pour laquelle le chapitre doit régulièrement dire qu'il ne peut pas y avoir de femmes dans les tours, par exemple, dormir la nuit avec des marguilliers ou avec des gardiens des portes, puisque un des grands soucis, disons, des chanoines, disons, dans cette intrication des mondes laïcs et des mondes cléricales, c'est d'empêcher aussi que l'on vienne, non seulement dans le cœur, que des personnes étrangères à la communauté pénètrent dans le cœur, ou des femmes, puisque les femmes normalement n'ont pas le droit d'être dans le cœur, mais aussi qu'on ne vienne pas voler. C'est la raison pour laquelle le cœur, qui est un espace dans lequel se trouvent des richesses considérables en termes de livres, en termes d'accessoires liturgiques en or et en argent, le cœur est fermé non seulement complètement par sa clôture, mais il est aussi fermé par des portes dans le chemin latéral qui se trouve entre le chevet et le cœur, fermé par des portes en fer, fermé par des huisses, parce qu'il y a régulièrement des tentatives de vol, il y a des vols, et donc il faut protéger ce lieu. En ce qui concerne le personnel laïque qui se trouve qui travaille dans la cathédrale, qui travaille dans le chœur et qui est logé dans le cloître, il est très difficile, pour essayer d'avoir une idée globale de l'importance de ce personnel, dont vous avez quelques références qui sont données sur le plan du cloître qui vous a été transmis. Disons qu'on peut dire qu'au minimum, oui, peut-être. Au minimum, on a 46 maisons dans le cloître de Notre-Dame. Je rappelle que le cloître est un lieu entièrement clos et à l'intérieur duquel on accède par 4 portes. Ce cloître comprend 46 maisons, dont 37 maisons sont canoniales, claustrales canoniales, réservées aux chanoines.
Attends deux secondes, à nouveau un problème de partage d'écran, de vitesse de transmission.
Les plus importantes de ces maisons, on le sait par les inventaires après décès, peuvent héberger de 20 à 30 personnes. Quand on sait qu'il y a plusieurs dizaines, 30, 40, 50 offices et charges qui sont remplis par des laïcs à Notre-Dame, on peut se dire que dans le cloître de Notre-Dame, au quotidien, en période normale, on a au moins 4, l'hypothèse basse pour moi, c'est qu'on a au moins 400, entre 400 et 500 personnes qui résident, qui dorment dans le cloître. Mais bon, c'est difficile d'avoir une idée beaucoup plus précise. Plus probablement, de personnes actives pendant la journée dans le cloître, on est à plusieurs centaines et certainement plus de 500 personnes qui transitent, qui travaillent quotidiennement dans le cloître. Voilà, peut-être je vais m'arrêter là parce que nous avons encore beaucoup de choses. C'était juste un aperçu rapide. Et si vous avez d'autres questions, nous pourrons répondre tout à l'heure à d'autres questions.